C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, la consultation à Québec sur le troisième lien. Qu'est-ce que vous voulez, un traversier, un pont, une nacelle? Et c'est une consultation en ligne. On sait que le gouvernement n'est pas lié, pas plus que la Caisse de dépôt et de placement. Est-ce qu'on a besoin de cette consultation, Nathalie?
Ben, pour moi, c'est une perte de temps pour gagner du temps. Ça ressemble à la stratégie du désespoir. Honnêtement, le mécanisme est bidon. Le journal Le Devoir révélait hier qu'il n'y a aucun mécanisme qui était en place pour empêcher qu'un citoyen réponde au sondage plusieurs fois. Moi, j'ai fait mon devoir de citoyenne. J'ai répondu au sondage en question en prenant soin de mettre quelques commentaires à la fin du sondage en question. Et il faut dire que la consultation le porte, puis je cite, sur la construction d'un lien additionnel exclusif pour le transport routier. On a jusqu'au 22 mars pour remplir le sondage en question. C'est quand même assez court, faut le dire. Et après ça, il y aura un grand sondage somme pour confirmer ou infirmer les tendances. Moi, j'ai envie de vous dire, là, après toutes les promesses non tenues de la CAQ dans ce dossier-là, je m'étonne encore que certains ministres puissent continuer de défendre ce projet-là sans rire. Parce que non, mais c'est vrai. Écoute, c'est devenu une clownesque. C'est devenu la grande farce nationale. Tu disais l'expression Paul la semaine passée. On vit dans une société. On est une société de farce et attrape. Ben ça ressemble à ça, le projet de troisième lien. Et je me désole de voir que le gouvernement a tout fait foirer dans ce dossier-là, parce que depuis le départ, ce débat sur la pertinence d'un autre lien est biaisé. On a aborder l'enjeu sous l'angle de la congestion, alors que l'enjeu numéro un, c'est celui de la sécurité. Le pont de Québec a plus de 100 ans. Le pont Pierre-Laporte a été inauguré en 1970. Il a 54 ans. Rappelez-vous, le pont Champlain, après 57 ans de vie d'existence, là, on l'a mis en service, on l'a remplacé, on en a construit un nouveau. Conclusion, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution pour remplacer un des deux ponts. Alors, dans ces conditions-là, on ne devrait pas se chicaner sur la pertinence d'un autre lien, mais sur la localisation de ce futur autre lien et sur la nature qu'il va prendre.
Mais tu sais, ils ont mis autre lien, un nouveau lien. C'est là que le bas blesse, parce que il y a un beau projet. Il pourrait avoir un très beau projet de remplacement du pont Pierre-Laporte. Un beau projet, comme il y a eu au pont Champlain, là. Je veux dire, Nathalie, tu viens de le dire, même époque, etc. On rajoute là-dessus un transport structurant. Ça pourrait être un SRB si jamais il n'y a pas l'argent pour faire un tramway, parce qu'un SRB peut faire monter l'achalandage. Puis en plus, ça occupe les voies qu'occuperait un tramway. À partir du moment où l'achalandage est rendu très élevé, à un moment donné dans le temps, tu peux dire on le remplace par un tramway. Il y a la possibilité de faire un beau projet. Puis le mandat a été donné à la Caisse. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, à la Caisse, mais en tout cas, sans doute pour éviter l'investissement. Mais on aurait pu quand même le donner à des personnes compétentes en dehors de la Caisse pour avoir un avis indépendant. Mais là, il y avait comme, OK, on se met au travail. Je pense que tout le monde a l'air, il y a un consensus, on s'en va par là. Pourquoi cette espèce de gimmick de retourner en arrière avec un nouveau lien? Puis en plus, le nouveau lien, là, entendons-nous, là, à part s'il passe à peu près là où est le pont Pierre-Laporte, là, on s'entend pour dire qu'il va coûter trois fois plus cher que le pont Champlain. Tu sais, rules of thumb, là, tu sais, la longueur, la profondeur, etc., des piliers, c'est l'écart entre les piliers, tout ça. Mettons, avec des grands branchements aux autres autoroutes. Trois fois plus cher pour trois fois moins de monde. Parce que c'est trois fois moins d'achalandage qui est prévu. Puis ça, c'est prévu dans le bureau du ministre. Là. C'est pas prévu parce que tu te rappelles que à la suite de l'élection, Mme Guilbeault était sortie pour dire qu'entre 2019 et 2023, l'achalandage avait chuté de 20 000 voitures, était passé de 133 000 à 113 000. Fait que même avec un achalandage, le maxi, tu arrives à un tiers d'achalandage du pont Champlain. Alors, tout le monde sait que ça ne se fera pas. OK? Ça ne se fera pas. Alors, quel est l'objectif du premier ministre? Est-ce que c'est de dire, je l'ai dit, fait qu'on va le faire, le sondage, je l'ai dit, soit l'élection, j'ai dit, il va falloir consulter les Québécois, fait que bon, consulter les Québécois, ça, c'est une option. L'autre option, rappelez-vous comment il pousse sur l'élection du gouvernement conservateur. Comment il a dit au gouvernement conservateur, à quoi ça sert le Bloc? Ça fait pas la première fois qu'il pousse. Parce que Poilievre n'est pas contre la construction d'un nouveau pont à Québec. Et ça, il le sait et il espère que ça va tout changer quand le gouvernement conservateur va être élu. Ça ne sera pas lié au transport en commun. Il va avoir le financement 40% de l'infrastructure. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, excusez-moi, Nathalie, j'ai fini. Bernard Drainville, qui était pogné à défendre sans vraie statistique. On voit bien qu'on a besoin d'un pont, juste avoir, on voit bien. Puis là, chez moi, avec les gaz à effet de serre, ils veulent pas retourner au combat avec ça. Ils veulent avoir quelques données.
Oui, mais politiquement, c'est sûr que c'est devenu une patate chaude pour la CAQ. Puis il n'y a que à blâmer là, dans la façon dont ils ont géré leur dossier, le dé pour dérapage. Luc, quand tu parles d'achalandage, toi, c'est exactement le genre d'argument qui vient biaiser le débat. Parce que si tu parles d'achalandage, c'est sûr qu'il n'y aura jamais rien pour justifier la construction d'un troisième lien. Parce que si tu compares l'achalandage de Québec, par exemple, versus Montréal, c'est sûr qu'on est toujours perdant. Mais le problème, et j'y reviens, puis je suis très insistante, c'est celui de la sécurité. Lorsqu'il y a un accident sur le pont Pierre-Laporte, c'est l'enfer. Premièrement, les camions ne peuvent pas passer sur le pont de Québec. Deuxièmement, ça crée une congestion monstre dans la ville, mais il y a une question de sécurité également pour les automobilistes puis les citoyens. Alors, je peux pas croire
Je pensais que
tu
allais dire les cyclistes. Je me suis dit, mon Dieu, on rentre dans une nouvelle ère.
Non, mais je peux pas croire qu'une ville de la taille de Québec qui va croître sur le plan démographique, je ne peux pas croire qu'une agglomération de la taille de la communauté métropolitaine de Québec compose avec deux vieux ponts. Voyons donc, les amis, on peut-tu faire preuve de bonne foi? Puis se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça longtemps.
Que le pont Champlain, initialement, était un pont payant.
Oui,
les conservateurs étaient avec le projet, je me souviens très bien, puis ils avaient dit, vous allez payer, puis là, tu dis, OK, mais t'as des ponts gratuits autour, puis t'arrives à Champlain, tu payes, les gens vont aller vers les ponts gratuits. Tu sais, et c'est Trudeau qui a fait, ça va être un pont comme les autres.
OK. Mais Nathalie, t'as bien raison, mais pourquoi pas un beau projet de remplacement? Pourquoi, tu sais, avec tout un projet structurant Rive-Nord, Rive-Sud, me semble ça pourrait être très, très mobilisateur. Puis, je mettrais ça sous le parapluie d'un projet d'urbanisme en même temps. C'est-à-dire, tant qu'à faire des axes de transport, on va regarder où on va construire des nouveaux logements. Puis, où est-ce qu'il y a de la possibilité pour des nouveaux quartiers? Puis, c'est quoi le temps de déplacement, mettons, entre ce nouveau quartier et le centre-ville de Québec avec un transport structurant? Un vrai projet d'urbanisme et de transport pour la ville de Québec, pas des déclarations sur le bord, une fois de temps en temps, suite à une défaite électorale.
Oui, mais il y a tout le boulevard Laurier qui est à refaire. Rappelez-vous, il y avait un immense projet, là, le phare avec une immense tour. Ça a pris le bord de la trappe, là, mais c'est sûr que le boulevard Laurier a besoin d'amour, comme l'a déjà dit le maire Labeaume, l'ex-maire Labeaume, je suis d'accord avec lui. Quand tu parles de l'implication de la Caisse, là, qu'on s'entend, c'est encore pour gagner du temps que le gouvernement fait appel à la Caisse de dépôt. Dans le cas du tramway, il est pris entre une population qui majoritairement ne veut pas du tramway et l'image que projette le gouvernement la CAQ, c'est-à-dire ils veulent pas être un gouvernement qui est incapable de livrer des transports structurants en matière de transport collectif. Donc, ils sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce pour le tramway. Et pour ce qui est de la Caisse, M. Charlemont, le grand patron, a dit à ton micro, Paul, qu'il cherchait le meilleur projet pour les besoins des citoyens, puis la rentabilité n'était pas le premier critère. Puis il a ajouté que la Caisse serait pas nécessairement mise à contribution pour le financement. Alors, parce qu'il a parlé, il dit, si c'est un pont, ça change la donne. On comprend que l'expertise la Caisse, c'est pour les projets de transport collectif dit structurant. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y a encore absolument aucune... la seule certitude qu'on semble avoir du côté de la Caisse, c'est qu'ils vont faire une proposition pour un projet structurant qui va relier les deux rives. Est-ce qu'ils vont venir confirmer ce qui est déjà sur ce qui a été annoncé ou ils vont brasser tout ça? Mais ça, c'est la seule certitude qu'on semble avoir jusqu'à maintenant. Mais pour le reste, honnêtement, c'est un dossier vraiment qui a été mal géré du début à la fin. Alors, faut pas s'étonner d'un tel dérapage.
Très bien. Au retour de la pause, est-ce que Hydro-Québec a en fait assez pour réduire le nombre et la durée des pannes d'électricité?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Hydro-Québec veut réduire de 1% le nombre de pannes. On peut trouver que c'est pas beaucoup, mais Hydro-Québec dit quand vous regardez le nombre de pannes qu'il y a eu, c'est quand même un changement important. Alors, des pannes plus courtes, des pannes également moins nombreuses, avec des investissements importants, 130 millions, entre autres pour couper les branches d'arbres, la végétation, et également rendre le réseau un peu plus performant avec les changements technologiques. Est-ce qu'ils ont réalisé qu'on avait finalement passé à l'époque des changements climatiques? Tu penses à Hydro-Québec?
Tu as demandé s'il y avait réalisé.
Oui. Puis, ben, elle m'a dit, ils ont reconnu que, tu sais, c'est un rapport de vérificatrice qui dit que...
Il y a un changement climatique.
Ben oui, mais qu'on est des cancres dans la gestion des pannes, là, tu sais, fait que...
Ben écoute, elles ont doublé entre 2022 et 2021, puis elles ont continué d'augmenter après 2023. Fait que si t'as 100% d'augmentation sur deux ans, ben tu peux pas dire je vais couper 1% des pannes. Ils visent 40% de réduction. Et pour ça, ils veulent investir 50 milliards de dollars. Et là, bravo à Hydro-Québec pour plusieurs choses. Bravo parce que le ministre de l'Énergie faisait pression sur Hydro-Québec pour ajouter de la puissance et puis juste de la pression là-dessus. Et Hydro-Québec de se lever puis dire un instant, là, il faut qu'on mette aussi de l'argent sur la
service à la clientèle.
Ouais, puis là, c'est 50 milliards. Fait que c'est pas rien, c'est énorme. C'est une énorme somme. J'avais jamais vu une somme comme ça pour de l'amélioration de la performance. Et donc, bravo pour ça. Bravo aussi pour dire la vérité. Quand ils disent qu'on va couper 75 000 arbres puis que ça va couper 1% des pannes, c'est vrai. Et ça, c'est la spécialité d'Hydro-Québec, c'est de dire la vérité. Là, quand c'est pas le ministre qui prend la parole à la place d'Hydro-Québec. Maintenant, il va falloir venir un chirurgien ici dans le local pour me rattacher la mâchoire une fois de temps en temps, parce que là, elle m'est tombée sur le chest encore. Quand j'ai vu ça, hey, écoute, on va couper 75 000 arbres, attends, c'est vous avec vos pancartes, ça va améliorer de 1%. Pardon? Vous avez baissé la productivité de 100%? Vous avez augmenté le nombre de pannes de 100% sur deux ans? Puis là, vous nous dites, on va couper 75 000 arbres pour aller chercher 1% d'amélioration? Un instant, là. En 1980, je m'adresse à la nouvelle vice-présidente directrice exécutive. Je sais pas c'est quoi les noms dans ce moment. Vice-présidente exécutive, ouais. Claudine Bouchard. Madame Bouchard, un petit cours, là. Dans les années 60-70, les gestionnaires, c'était des gros jambons, ils agissaient comme vous, OK? Puis là.
Semblait que tu viens de dire bravo, toi, Hydro-Québec.
J'ai dit bravo pour certains éléments. Puis là, maintenant, on arrive sur les arbres.
Ah, OK.
Fait que là, dans ces années-là, tassez-vous, on coupe les arbres. Mais là, ça a changé. Il y a eu une prise de conscience d'Hydro-Québec. Ils ont fait un programme qui s'appelait « Le bon arbre au bon endroit ». Après ça, les villes n'ont plus le droit de planter des arbres n'importe où. Il y a eu consultation des plans d'Hydro-Québec. Il y a eu partenariat. Après ça, les arbres, est-ce qu'on a compris qu'il y a un changement climatique, là, que le nombre de jours où la température va être en haut de 40 degrés pendant plus de X jours par année vont augmenter sans cesse à partir de maintenant puis jusqu'en 2050, puis que les rues sans arbres, ça va être des rues invivables? Ils ont compris ça, j'espère. Hein? Et ils ont compris que la canopée, c'est l'indice de canopée, c'est-à-dire la couverture de feuillage par-dessus un trottoir ou une rue, ça, c'est considéré dans la qualité de vie. Plus une ville a de la qualité de vie, plus l'indice de canopée est élevé. Si tu veux faire une comparaison entre Westmount puis Centre-Sud, ben, tu le regarderas. La différence de température entre le milieu d'un centre d'achat puis le milieu d'un parc, c'est 14 degrés. 14 degrés dans une canicule, quand il n'y a pas d'arbres. Ça crée du vent, ça crée de l'ombre. Fait que là, on va couper les arbres pour améliorer 1%, là, un instant. Pas sans compensation.
Luc, moi, je vais tenter de te raccrocher à mon choix ce matin, oui. Là, parce que j'essaie de te suivre où est-ce que tu t'envoies avec tes skis, là. Mais bon, tout d'abord, il y a une admission, hein, dans l'annonce d'Hydro-Québec hier. Vous avez parlé du constat de la vérificatrice générale du Québec. Puis cette admission, c'est de dire, ben, effectivement, on a un problème de vétusté des équipements qui contribuent à créer des pannes. Mais il n'y a pas juste la vétusté des équipements qui créent des pannes. Il y a surtout la végétation. Puis la végétation, elle cause 40% des pannes. Tous les experts, Luc et Paul, s'entendent pour dire qu'il y a une corrélation très, très forte entre la maîtrise de la végétation et la fréquence et la durée des pannes. Alors, c'est pour ça qu'Hydro-Québec dit on va effectivement abattre 75 000 arbres, mais on va faire ça de manière, Luc, stratégique. Là, oui, parce que de la façon dont
avec
tu parles...
Avec une scie à la main.
Luc, de la façon dont tu parles, c'est comme s'il y avait une coupe à blanc là, partout. Voyons, c'est pas ça. Là. Et on veut faire des coupes stratégiques dans les endroits qui sont les plus problématiques. Le réseau de distribution d'Hydro-Québec, c'est 97 000 kilomètres. C'est le réseau de desserte aérienne. Ce réseau permet de desservir 2,8 millions de Québécois. Hydro-Québec dit, dès au cours des prochains mois, on va inspecter 22 000 kilomètres de lignes électriques pour s'assurer que ça va. Ils vont faire aussi une inspection de 200 000 poteaux, mais là-dessus, ils vont en remplacer 28 000 qui sont en bois, puis ils vont en installer 500 en composite. Savez-vous combien il y a de poteaux de bois dans ce 97 000 kilomètres de réseau? Il y en a 2 500 000. Leur durée de vie de 60 ans, alors que le poteau en composite est de 100 ans. Ils vont faire quoi à part ça? Ils vont inspecter 10 000 équipements, dont les transformateurs. Alors, il y a tout, on va même installer dans certains coins, on va enfouir des fils, on veut tester des fils qui sont recouverts. Donc, c'est tout un plan qui est extrêmement complet. Moi, je trouve ça très rassurant parce que Hydro-Québec est le cancre en matière de panne hydroélectrique en Amérique du Nord. Le plus cancre, c'est Hydro One, notre voisin ontarien. Hydro-Québec a des pannes qui durent en moyenne 346 minutes. Hydro One, c'est 390 minutes. Et la société d'État qui fait le meilleur score ou qui a le meilleur résultat pour ce qui est de la durée des pannes, c'est 91 minutes. Alors, clairement, les pannes, la vérificatrice générale l'a dit, depuis 2012, le nombre de pannes a augmenté, puis les pannes sont plus longues. Je vais terminer, mon cher Paul, en disant ceci. C'est sûr que les changements climatiques, d'ailleurs, Hydro-Québec adopte un plan pour gérer les changements climatiques. On pourra pas réduire les pannes à zéro. C'est impossible, parce du verglas puis des vents forts, il va continuer d'en avoir, on s'entend, là.
M'a donné un exemple personnel. Lors du dernier verglas, c'est pas juste le fil qui est tombé, c'est le poteau qui a cassé. Et ça a été long parce que c'est plus compliqué que, bon. Ils ont coupé des arbres aussi autour parce qu'il y avait des enjeux. Là, tu te dis, OK, coupe des arbres, t'as pas bien le choix, mais est-ce que, puis je l'ai pas entendu hier, là, puis j'aurais peut-être dû poser la question ce matin, mais y a-t-il un plan pour replanter autrement, différent?
Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Et c'est pour ça que je dis que ça prend une compensation. Un arbre en ville, là, parce que tu sais, une ville Montréal, mettons 2012 à 2021, 12 000 arbres par année, parce qu'ils en perdent autant. Tu perds quasiment autant d'arbres que tu en remets, OK? Un effort particulier quand il y a la grille du frein, on a planté 33 000 arbres. Puis dans les 33 000 arbres, on en a planté à peu près la moitié sur rue, puis l'autre moitié en parc ou dans sur les terrains privés. Les arbres dont je parle, c'est les arbres sur rue. Les arbres sur rue, là, tu peux pas arriver puis dire, ben moi, je vais couper toutes les arbres de la rue parce que là, mon fil passe.
Je pense pas qu'ils ont dit ça.
Ben, tu peux pas le dire. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est des précisions. On veut savoir c'est quoi le plan de compensation. Quand tu plantes un arbre sur rue, là, maintenant, là, t'as pas idée de l'ingénierie qu'il y a en arrière de la plantation des arbres. Là. Avant, on plantait des arbres sur rue, on faisait un trou de 3 mètres cubes, puis carré même, puis là, par un mètre de profondeur. Puis là, on plantait des arbres qui avaient de l'air une asperge 20 ans plus tard. Maintenant, on plante des arbres avec trottoir flottant. Ça veut dire qu'on dépose le trottoir, comme on vient de le faire sur la rue Sainte-Catherine, là, sur une structure de plastique pour que les racines puissent pousser en dessous du trottoir. Ça coûte une fortune. Ensuite de ça, on allonge les carrés d'arbres à 10 mètres cubes. Ensuite de ça, on fait l'arrosage par la racine pour que ça pousse. Un travail immense. Si Hydro-Québec arrive avec sa chaîne-là puis coupe cet arbre-là, ils viennent nous couper 5 000 $ du morceau, là. Tu peux pas leur planter à la même place parce qu'il va falloir que tu enlèves la souche. Parce que si tu le coupes, c'est qu'il y a un problème avec un problème électrique. Tu peux pas leur planter, il faut que tu enlèves la souche, peut-être, ou rouvrir le trottoir à une autre place pour leur couper des gros coups. Fait que moi, ce que je dis, c'est arrivez-vous pas en me disant on va améliorer les pannes, ça va coûter. Il faut qu'on coupe 75 000 $. Ce que je dis, c'est arrivez-nous avec un plan complet. On n'est pas des caves, on va comprendre. Mais déposez-nous le plan pour on va en discuter.
Ben, je comprends ce que tu dis. Par précision, en coupant 75 000 arbres, Hydro-Québec veut dégager l'équivalent de 22 000 km de ligne. Je vous rappelle qu'il y en a 97 000 dans le réseau de dessertes aériennes de distribution aérienne d'Hydro-Québec. Là où je te suis, je comprends ce que tu dis, c'est que ça prend un programme de compensation pour combler la perte de ces 75 000 arbres. Ce qu'on ne sait pas, c'est ces 75 000 arbres, ils sont abattus sur combien? Si on veut dégager 22 000 km de ligne, est-ce que ça veut dire que tu divises 75 000 arbres par 22
000
km?
Non, Nathalie, je veux dire pourquoi. Parce que les pannes stratégiques sont les pannes qui touchent beaucoup de monde. Et le beaucoup de monde, c'est dans les milieux urbains. C'est sûr que c'est un chalet à l'autre bout du monde. Il y a 70 arbres à couper pour rendre l'électricité à ton chalet. C'est pas si grave que ça. Parce qu'il y en a 6 millions d'arbres pour se rendre à ton chalet. Et il y a un chalet au bout, mettons, ou 10 chalets autour du lac. Ce qui est grave, c'est quand t'as un quartier avec des milliers de personnes, puis des arbres qui font tomber les lignes. C'est pour ça que je te dis, ça va être en milieu urbain que ça va être le plus stratégique. Et donc, faut avoir une analyse très détaillée. On peut pas se contenter de dire, on coupe parce qu'on veut améliorer la performance.
On s'arrête là-dessus. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.